Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires, un grand merci à eux. Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh bah c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Pour amplifier cette mobilisation, vous, la Fondation Abbé Pierre, vous avez des ambassadeurs. Je vous propose qu'on accueille l'un de ces ambassadeurs sur ce plateau, l'humoriste Aymeric Lomprey. Salut Aymeric.
Ça va
et toi? Bienvenue, installe-toi, très heureux de t'accueillir sur le plateau de Backseat, merci.
Bonjour Monsieur Robert.
Monsieur Lomprey, enfin,
Aymeric, tu es donc, je le disais, ambassadeur et humoriste en même temps, comment ça
je suis
fonctionne?
Plus humoriste qu'ambassadeur. Mais
ouais. Comment ça se manifeste? Ça consiste en quoi ton rôle d'ambassadeur de la Fondation?
J'ai plein de pulls gratuits. Et non mais je suis tout récent ambassadeur, donc je sais pas trop, là c'est la première... manifestation que je fais.
C'est la première.
Et c'est super.
Ça, bah non, voilà. On a parlé une fois ensemble à un festival.
Vous êtes? Oui, on a fait.
Il me semble que c'est bien vous.
Oui, on avait fait un truc avec. On avait fait une apparition avec Blanche Gardin.
Ouais.
C'était où?
Qui elle aussi est ambassadrice.
Elle est ambassadrice. Ouais.
Elle aussi, elle est ambassadrice, ouais. Blanche Gardin. Ouais. Et c'était à quel festoche que vous étiez?
Wheel of Green.
Ah, c'était Wheel of Green.
Wheel of Green, le festival de gauche.
En plus, je l'ai vu, c'est écrit là. Ouais. Je l'avais. Non, mais ça fait penser un peu à Coluche qui avait fondé les Restos du Cœur. Pourquoi Blanche Gardin et toi, vous êtes ambassadeur de la Fondation Abbé Pierre? Est-ce qu'il y a un lien entre l'humour et l'aide aux plus démunis?
C'est dur d'être ambassadeur.
Ouais, t'as vu.
Non, il y a un lien entre. Bah, en tout cas, c'est le lien nous qu'on a voulu mettre entre. On pense que avec des blagues, on peut essayer de dire des choses, quoi. Mm.
Christophe, pourquoi vous l'avez choisi, Aymeric Lomprey?
Ouais, Christophe, pourquoi tu l'as choisi?
Parce qu'on est malade. Non, bah parce qu'il y a la sensibilité, c'est pas lui qui va le dire, mais allez voir son spectacle. Voilà. Moi, j'ai été mort de rire pendant le spectacle, mais en même temps bousculé.
Mmh. Ouais.
Son spectacle en cours, hein, c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui en tout cas passait du temps dans la rue, qui galère et... voilà quoi. Enfin, je veux
le
dire...
personnage, hein, pas moi.
Non, bien sûr. Pardon, je ne parlais pas d'Aymeric. Ce que je veux dire par là, mais très sincèrement, tu disais tout à l'heure, les politiques arrivaient à les convaincre de ça. Quand on montre des films de situations de mal logés et qu'on montre la galère ou comment les gens essaient de s'en sortir, les gens lui disent mais c'est pas possible, c'est dingue. Mais attendez, il faut qu'on mette 4 millions de mal logés en vidéo pour que il y ait une politique qui soit plus solidaire. Ouais. Eh bien, la sensibilité de Blanche Gardin. Vous connaissez bien avec Aymeric, la sensibilité d'Aymeric sur ces sujets-là. Voilà, c'est pas être ambassadeur pour être ambassadeur, c'est se retrouver dans le combat. Et je crois qu'on se retrouve dans le combat.
Oui, c'est plus ça. Ouais.
C'était une de tes premières chroniques qu'on a retrouvées en 2020 sur France Inter, chroniques sur Inter. Tu parlais justement de la Fondation et de la baisse des dons. On regarde un extrait, on revient juste après. Et on n'a pas le son en plateau.
Non, mais c'était une chronique silencieuse. Je fais du mime à la radio, moi.
On n'a pas le son en plateau. Il y a un souci en régie. Tu te rappelles de cette chronique? Tu saurais.
Ouais, je peux vous la refaire. Ouais. Ouais. Macron. Bah, c'est que le début, quoi.
Un de tes rôles, c'est de demander aux gens à faire des dons. Ce que tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, c'est d'abord des dons, la Fondation Abbé Pierre.
Ouais.
C'est un truc que tu fais, du coup, régulièrement?
Non, je ne le fais pas assez, parce que j'aime pas trop demander de l'argent aux gens. Ouais. Mais en tout cas, j'essaie le plus souvent possible de mettre un t-shirt de la Fondation Abbé Pierre. Et les gens, ils font le lien par eux-mêmes. Mais demander. Ouais, non, c'est pas trop. Je laisse ça aux enfoirés.
C'est pas trop ton truc. Financièrement, d'ailleurs, vous êtes comment
On est super en ce moment.
Vous êtes solide ou...
Non, mais en plus, c'est pas l'objectif. C'est pas de dire fais appel au don. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, il faut qu'on soit nombreux pour mener le combat. Et le rayonnement, la détermination de personnes comme Aymeric, ça permet aussi, il faut le dire, de toucher un public plus large. Moi, les gens, ils me trouvent chiant. quand je parle du mal logement, c'est pas très marrant.
Je te jure que non.
Mais, non, mais enfin, c'est pas très marrant. Non, tu vois ce que je veux dire.
Pas dire ça.
je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est fascinant quand tu parles de mal logement.
Piquer de l'eau.
C'est... Ouais, vas-y, bien
sûr. De l'eau, Christian.
Ah ouais, je veux bien. Ouais. C'est gentil.
Parce que
merci beaucoup.
En fait, tout le monde dit que tu patauges en régie.
On a vu ton homologue de la fondation des Restos du Cœur qui avait tiré la sonnette d'alarme en disant qu'ils risquaient cette année pour la première fois de ne pas pouvoir venir en aide à certains de leurs bénéficiaires. Est-ce que vous aussi, vous en êtes à ce niveau de galère de pas pouvoir aider ceux que vous voudriez aider?
Ce qu'a décrit le président des Restos, c'est exactement ce qu'on vit et ce que vivent toutes les associations. C'est-à-dire deux choses. Plus de monde dans la galère. Donc plus de monde à aider. Première chose. Puis après, des associations, toutes celles que je disais que nous soutenons, ou la Fondation Abbé Pierre, ou les Restos, ils ont des coûts fixes aussi qui augmentent. L'énergie, les travaux, parce qu'il faut entretenir un bâtiment, enfin comme tout le monde, quoi. Donc effectivement, il y a une difficulté. Alors, toutes les associations ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines ont des aides publiques et des dons. C'est par exemple le cas des Restos du Cœur.
Ouais.
Nous, c'est que des dons. Pour tout vous dire, la Fondation, elle reste très soutenue aujourd'hui.
Vous avez des soutiens, vous avez des dons.
Oui, et y a quelque chose qui est hyper touchant. Enfin, je veux dire, le soutien de ces donateurs réguliers, c'est hallucinant. Ça veut dire d'abord qu'ils se retrouvent dans le combat et dans les réponses qu'on apporte aux mal logés, d'une part. Mais on voit aussi autre chose. C'est qu'il y a des gens... Beaucoup de gens qui ont des petites ressources qui donnent. Alors, quand il y a l'inflation, ils galèrent. Mais il y a aussi d'autres gens qui vont se mettre à donner à ce moment-là, parce qu'ils ont bien pris conscience du fait qu'il y avait des gens qui galéraient et qu'il y avait besoin de soutenir les associations qui les aident. Donc, cette solidarité, elle fonctionne. Mais je voudrais juste dire un truc. Nous, évidemment, on a besoin de ces dons. Les restos ont besoin de ces dons. D'autres ont besoin de ces dons. Mais, encore une fois, pas pour être chiant, mais on n'en sortira que en partageant plus les richesses dans le pays,
avec des
impôts, une fiscalité, etc. Il ne faut pas oublier ça. Les deux doivent être menés de front, il ne faut pas oublier ça.
Mais non, mais c'est ça, moi, que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas le rôle des citoyens d'aider les autres citoyens, c'est le rôle du gouvernement, quoi. Et ce n'est pas normal que le gouvernement laisse les associations gérer ça. C'est à eux de le faire, quoi.
C'est un rôle de plaidoyer qui te tient à cœur.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, plaidoyer, mais... plaidoyer, c'est quoi?
C'est quand tu plaides.
L'association
Abbé Pierre,
les associations, moi je suis pour la disparition des associations, quoi. Désolé, on fera un autre boulot, mais
ouais, bah
non, mais c'est à l'État de le faire, quoi. C'est vraiment à l'État.
Ceci étant, c'est un débat intéressant et assez récurrent. Est-ce que le but du jeu à terme, c'est la disparition de la Fondation Abbé Pierre?
Oui, j'y crois pas une seconde, parce que il y a du boulot, mais effectivement, enfin je veux dire, ça il faut accompagner les évolutions, si tu veux, mais ça n'a pas de sens. On voit bien que dans certains pays, d'ailleurs, c'est la charité qui domine. C'est pas la protection sociale. C'est pas le cas en France. Attention. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un système de protection sociale qui est, à la base, plutôt parmi les meilleurs du monde.
Pour l'instant.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Pardon. Disons-le. Non, je t'en prie. Disons-le. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des trucs qui commencent à... Il y a des coups de butoir. Il y a des trucs qui commencent à flancher. Et puis, il y a des trous dans la raquette. Je parlais tout à l'heure du RSA pour les moins de 25 ans. Ça, c'est pas acceptable. Donc, en fait... Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot devant nous. Mais c'est vrai que, en fait, la Fondation, elle est à l'image aussi de son fondateur, l'abbé Pierre. Lui, il a fait pendant plus de 60 ans en menant son combat. Mais aussi, il a été député. Mais aussi, il n'a pas lâché les responsables politiques pour leur dire « Vous devez agir, vous avez la responsabilité d'agir ». Et donc, on est complètement dans le prolongement de cette histoire-là.
Alors, on a réussi à réparer en régie l'extrait de la tribune qu'on voulait regarder. Donc, on va quand même se la farcir. On la regarde, on revient juste après.
Allez, on se la farcit. Bon, allez, assez parlé des riches, maintenant on va parler des pauvres. Les dons pour la Fondation Abbé Pierre ont diminué de moitié cette année. Alors, c'est pas parce qu'il y a moins de sans-abri, hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas parce que les dons au Téléthon baissent qu'il y a moins de gogoles. Non, c'est parce que les gens ne donnent plus. Alors aujourd'hui, j'invite les Français à faire des dons. Allez, on y va les classes moyennes. On va sur le site de la Fondation Abbé Pierre et on donne. Voilà, on donne, tant pis, on prend sur le budget vacances. Cet été, on ira dans les Vosges. Voilà, et puis c'est super sympa les Vosges. Par exemple, quand t'es dans les Vosges, jamais tu dis « Ah non, le soleil m'éblouit ».
Donc ça, c'était une de tes premières chroniques sur France Inter.
Ça se voit, je suis pas à l'aise, ouais.
On sent, en tout cas, on sent que ça te tenait déjà à cœur de parler de ce sujet-là.
Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur, ça?
Ouais, pourquoi?
Déjà, j'habite à Lille et il y a beaucoup d'amis qui bossent dans le social et du coup qui m'ont un petit peu qui m'ont un petit peu mis là-dedans. Beaucoup d'amis qui bossent au SAMU social ou même des EDUXP. De toute façon, à Lille, une personne sur deux travaille dans le social et l'autre est aidée. Vous rigolez, mais c'est vrai.
Pardon.
Et surtout, moi, c'est en arrivant un peu, quand j'ai commencé à jouer à Paris, où j'ai vu le nombre de personnes à la rue, quoi.
Ouais.
Où j'ai vu le nombre de sans-abri qu'il y avait dans la rue.
Ça t'a marqué, c'était en quelle année?
Ah ouais. C'était, je sais pas, c'était en 2013, 2014.
Ok.
Et en fait, même à Lille, où règne la précarité, j'ai été hyper marqué par ce nombre de sans-abri dans la rue, avec des gens qui... même devant la boutique Apple Store, quoi, où il y a trois sans-abri, et les mecs qui achètent des écouteurs à 200 euros. Et il y a eu un autre élément déclencheur aussi, c'est que j'habite au-dessus d'un hébergement d'urgence de jour. Et du coup, je croise tous les jours vraiment... Des gens qui sont vraiment, vraiment dans la merde.
Et comment t'en es venu à rencontrer la Fondation Abbé Pierre?
C'est eux qui m'ont contacté pour faire justement le truc au Cabaret Vert avec Blanche. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais
Et à We Love Green, vous avez fait quoi?
On a fait un appel aux dons. On a fait un appel aux dons.
Non.
Assez... Non,
non. Non.
Si. Et vous êtes qui, vous?
Mais vous êtes trompé d'invité.
Il n'y a pas eu d'appel au don à la Fondation We Love Green?
Au festival, peut-être, les deux. Non, non, mais moi, je me souviens d'avoir parlé du mal logement et de la précarité, mais oui, si, c'est vrai.
Mais devant un nouveau public, enfin, un public assez jeune et tout.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
C'était bien.
Ouais. C'était bien, ouais.
Non, c'est vrai.
Après, on a rigolé, on a bu des verres et tout.
Est-ce que tu as découvert des trucs en bossant avec la Fondation Abbé Pierre? Est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose? Est-ce que ça t'a...
Oui, qu'ils étaient financés uniquement par des dons, ça je savais pas.
Ok.
Et du coup, ce qui garantit l'indépendance, c'est ça un petit peu.
C'est l'idée.
Et non, mais toutes les semaines, je reçois un mail de la Fondation. Alors maintenant, ça va dans les spams parce que je les lis pas, mais j'ai appris. Non, mais ce qui est cool, c'est j'ai appris surtout qu'il y a plein de gens qui essaient de lutter contre la précarité et pour le partage des richesses.
C'est une question qui est un peu bateau, mais est-ce que c'est important quand on est artiste de s'engager? Est-ce que toi, tu concevrais la possibilité de ne pas avoir d'engagement public
tout en... J'étais engagé avant d'être artiste.
Ouais, ok.
Des artistes pas engagés...
Parce qu'il y en a plein, des artistes pas engagés. On a même le côté artiste qui porte une cause, c'est pratiquement un truc qui se fait de moins en moins. C'est peut-être une impression que j'ai, hein. Peut-être que je me...
Non, c'est pas l'impression, mais c'est parce que je pense
l'impression qu'il y avait des années où c'était tout le monde, tout le temps, les années 90, tous les artistes étaient engagés, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Soit ça les fait flipper, soit ça les intéresse pas.
Je pense que surtout, il y a un souci de vouloir vendre le maximum de billets ou de places de cinéma, et il faut essayer de vexer personne, quoi. Et du coup, je pense que s'engager, c'est limiter, c'est se mettre un plafond de verre dans sa carrière, quoi. Je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre.
C'est pas facile, hein.
Ouais.
Ouais, c'est pas facile quand même de s'engager, enfin, de prendre position, de soutenir. Faut faire confiance. Faut qu'il y ait de la confiance d'ailleurs réciproque. Enfin, sauf si on fait ça comme ça, un coup de pub. Mais si on est dans le long terme, qu'on discute de la situation, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est
et ça rend triste. Ça rend triste, quoi. Avec vos mails, moi, je les lis plus. Ouais.
Mais non, on sort des gens de la galère tout le temps. C'est... Non, mais moi, c'est ça qui me donne la force.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Sans rire. Enfin, parce que c'est mais vrai bon, que souvent, on voit souvent le combat à travers le politique, enfin, ce qu'on demande pour que ça change. Mais en fait, tous les jours, c'est des travailleurs sociaux, c'est des bénévoles, c'est des salariés qui apportent des réponses. Et en fait, elle est là, la force. Elle est là, la force. Et c'est là où parfois des économistes nous font des leçons sur des postures idéologiques. Je dis, mais attendez, mais vous êtes allé voir les gens? Vous avez regardé comment se composait leur budget? Comment ça se construisait? Vous qui pensez qu'il faudrait qu'ils se bougent un petit peu plus et que vous êtes dans votre situation parce que vous avez gagné ça à la force de votre poignet? Bah non, c'est pas si évident que ça. Ouais. Toute l'histoire nous apprend que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. Donc, quand vous êtes au contact pour aider, ou quand vous êtes avec les personnes les plus en difficulté, ça change le regard sur la société. Et c'est pour ça que moi, nous à la Fondation, mais sincèrement, c'est comme ça qu'on le pense, on le conçoit que dans un échange permanent sur comment les choses évoluent. Quand j'arrive, il me dit comment ça a bougé depuis quelques semaines. Et ça me paraît fondamental. Je peux poser une question à Aymeric?
Ah bah vas-y, je t'en prie.
Pourquoi t'as choisi...
Je suis pas célibataire. Hein.
Pourquoi t'as choisi ce thème dans ton spectacle?
Du mal logement?
Ouais.
Parce que je voulais au début parler de la solitude, et du coup je pense que c'est un des fléaux des gens qui sont à la rue, c'est la solitude, et aussi parce que c'est pas un thème que j'ai souvent vu dans les spectacles d'humour, et parce que je voulais traiter de la folie de la solitude. Ok. Principalement. Et je me suis dit, bah, ça va bien sur un personnage de un sans-abri, quoi.
Qu'est-ce que tu vas faire, toi, au festival Les Nuits de la Rue, les 15 et 16 septembre prochains?
Je ne serai pas.
Tu ne seras pas?
Non, je joue à Grenoble. J'aurais préféré y être que je joue à Grenoble, mais qui est la ville la plus moche de France, mais...
D'accord.
Voilà.
Bon, en l'occurrence...
Mais c'est bien de leur dire pour qu'ils essaient de changer leur mobilier urbain.
C'est quoi les publics que vous essayez de viser avec ce festival Les Nuits de la Rue?
Alors, au moment du concert, plutôt les jeunes.
Ouais.
Mais quand on regarde aujourd'hui comment sont écoutées les musiques urbaines, ça touche plus large.
Mmh, donc, c'est vrai.
Voilà. Et après, un peu plus largement aussi, parce que c'est aussi ce soutien des acteurs, enfin des musiciens, des chanteurs, etc. Il nous permet de toucher un public beaucoup plus large que peut-être celui qui va lire les documents de la Fondation, le rapport annuel de la Fondation. Donc, puisque même les gens qu'on connaît, ils ne peuvent pas lire les 200 pages du rapport. Oui, bah, j'ai bien compris. Mais donc, voilà, c'est vraiment l'idée de dire. Et puis, c'est d'avoir un discours sur la fraternité aussi, parce qu'on voit bien que ça manque aujourd'hui. Hein. C'est tendu quand même un peu le pays.
C'est un truc que tu réalises toi aussi ? C'est une espèce de tension profonde dans le pays ? Il y a un truc, notamment l'humour et la politique, France Inter, tout ça en ce moment.
Il y a une tension. Je vois de quoi tu parles. Non, la tension, je pense qu'elle est mise par la politique libérale de Macron, quoi.
Ouais.
Il s'arrête jamais, quoi, ce gars, à mettre les gens dans la merde, avec la loi travail et tout. Donc je pense que la tension vient de l'appauvrissement de la population, quoi. Où en gros, les gens sont dans la merde, donc tendus. Et voilà, et moi je pense que la faute est vraiment à tout ce gouvernement.
Est-ce que ça change l'humour, ça? Est-ce que l'humour change dans ces conditions-là? Est-ce que tu sens que c'est pas comme d'habitude? Il y a des terrains plus glissants que d'autres?
Là, le conflit actuel, il est un petit peu compliqué à traiter.
Ouais. Le conflit israélo-palestinien?
Ouais.
Ok.
Je pense que ça. Mais si on revient plutôt à la politique française, je pense que. Macron, en fait, il a réussi à mettre un petit peu des gens un peu partout. Non, mais sans être complotiste,
mais il a
réussi à mettre un peu des gens un peu partout. Et les gens qui étaient ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite se retrouvent là-dedans. Donc, alors que, pour moi, Macron a vraiment une politique ultra-libérale. Et j'aime pas parler sérieusement, mais du coup, ça rend tendu. Parce que Macron a réussi à rassembler un petit peu, c'est ça qui est dommage, quoi.
Du coup,
c'est absolument pas clair ce que je viens de dire.
Si, ça, t'es un opposant au président de la République.
Je suis clairement en tout cas à sa politique.
Oui, t'es un opposant à sa politique, sa personne, on s'en fout un peu, mais à sa politique, tu es un opposant à la politique.
On n'a jamais connu un président qui ait une économie aussi libérale. Mais la loi travail, ça va être une catastrophe.
Non, mais c'est une forme d'engagement politique, du coup. Tu es engagé politiquement.
Ouais. Oui, je crois que. Oui, je suis engagé politiquement.
Vous aussi, vous êtes engagé politiquement à la Fondation.
Non, pas du tout. Non, mais sincèrement, pas du tout. Je le dis sérieux.
Comment ça? Vous êtes quand même engagé sur la politique du logement?
Oui, mais on vient d'avoir une séquence où Émeric dit ce qu'il pense, et c'est son droit. Moi, ce que je vois, j'ai parlé tout à l'heure d'une dégradation depuis 2000 sur le front du logement, par exemple. Je ne remets pas en cause ce que Émeric dit. Émeric a sa liberté. Moi, ce que je pense, c'est que... Alors, d'abord, la Fondation, elle n'est vraiment pas politique. Il y a parfois dans l'histoire que nous, on suit de près, hein, parce qu'on dépiote les politiques publiques depuis maintenant 30 ans, hein, vraiment de près, hein, pour regarder les choix économiques, les choix de dispositifs, les choix d'aide ou de réduire les aides. Donc nous, notre ligne de conduite, c'est de dire, on regarde. Quand il y a des choses qui sont bien, on dit que c'est bien. Et quand on des choses qui sont moins bien, on dit que c'est moins bien. Quand on parle de la loi SRU, on dit que là, il y a eu un moment, le vote d'une super loi. Mais quand elle n'est pas appliquée, comme on l'a montré hier dans notre palmarès des mauvaises villes ou des multirécidivistes, on dit que ça, ce n'est pas acceptable. Et que là, la responsabilité du gouvernement en place, c'est de la faire appliquer. Je dis ça parce que ce n'est pas si simple. Je ne parle pas de spécialement d'Emmanuel Macron. Je parle, si on revient sur 20 ans, ce n'est pas si simple que ça. Les histoires de qu'est-ce qui a conduit à telle politique plus solidaire que d'autres. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, on est de la même manière que ces laïcs. Alors c'est l'abbé Pierre, hein, donc c'est important de le dire, dans nos actions, dans nos choix, etc., et dans nos statuts. C'est apolitique au sens pas partisan.
D'accord, ok.
Et quand
okay, je comprends.
Macron
je vois la différence.
Accepte, le président de la République, Emmanuel Macron, accepte de faire la politique du logement d'abord, on dit c'est bien. Pas parce que c'est Emmanuel Macron, parce qu'on sait que cette politique, elle va pouvoir durer pendant 10, 20, 30 ans et se développer pour mieux répondre aux besoins des sans-domicile. Mais quand simultanément, Emmanuel Macron, et je vous donnerai une anecdote, coupe dans les appels ou le logement social, comme je le disais tout à l'heure, on dit c'est pas bien. Et on dit que c'est même une catastrophe. Et d'ailleurs, j'ai eu des échanges avec les politiques là-dessus. Un jour, je présentais le plan logement d'abord d'Emmanuel Macron avec le président de la République en 2017, à Toulouse, dans la mairie de Toulouse.
Il venait d'être élu.
Exactement. Ouais. Mais on lance ce plan parce qu'il était venu au rapport de la Fondation. Il a dit, si jamais je suis élu, je le ferai. Donc tout de suite, on était le voir. Vous êtes élu, il faut le faire. Donc ce plan est mis en place. Et puis, quelques semaines après, il coupe dans les APL, il coupe dans le logement social. Et moi, je me retrouve sur les ondes, les médias, à dire, mais c'est scandaleux. C'est les deux leviers de la protection sociale les plus puissants qui sont en train d'être fragilisés. Donc, non mais... Et du coup... moi, je reçois quelques coups de fil ou des échanges de personnes que je rencontre. Ils me disent bah, « Vous êtes une girouette, quoi. » Je ne suis pas une girouette. Je vous dis que là, ça, c'est satisfaisant. Mais en revanche, ça, c'est vraiment une catastrophe si on continue comme ça. Donc, je dis ça pour le rôle de la Fondation. Après, moi, j'ai mon avis personnel, mais ce n'est pas mon sujet quand je suis délégué général de la Fondation.
Mais sous Macron, on est passé de combien de sans-abri ?
On n'a pas les statistiques parce qu'en fait, les dernières études, quand je disais que ça avait doublé en 10 ans le nombre de personnes sans domicile, c'était en 2012.
Ouais.
Mais il n'y a pas eu de nouvelle étude de l'INSEE. La future étude de l'INSEE,
c'est
l'année prochaine.
On est passé de 170 000 à 330 000, quoi. C'est ça, en gros.
143 000 à 330 000. Ouais. Mais en 2012, dernière enquête de l'INSEE, et on attend la prochaine. Là, c'est notre estimation à nous qui nous amène à 330 000.
Okay. Dernière question pour toi. Il y a un film qui est sorti récemment, un biopic sur l'abbé Pierre.
Et ouais.
Est-ce que ça vous a apporté, ça vous a fait une pub supplémentaire ? Vous avez reçu des dons ? Ça a été un boost intéressant, non ?
Je sais pas si on a reçu des dons plus.
Okay.
Par contre, ça fait vraiment vivre le combat de l'abbé Pierre. Allez le voir. Enfin, franchement,
ouais, c'est, tu recommandes ?
Ouais. Mais parce que moi qui ai connu l'abbé Pierre, qui suis dans la Fondation avec plein d'autres, que je salue pour mener ce combat dans son prolongement, j'ai été surpris, quoi. Bah alors, c'est l'effet un peu film biopic, 2h15, où tu retraces 60 ans de vie et de combat, quoi.
Et quelle vie ?
Mais c'est hallucinant.
Ouais.
C'est-à-dire, et en fait, hallucinant. Alors, tout ce qu'il a fait, résistant, député... et toutes les actions qu'il a menées pour les compagnons Emmaüs, les communautés, le mouvement Emmaüs, etc., tout ce qu'il a fait naître. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est la radicalité du discours. Je reviens à ce qu'on disait en introduction. C'est clair, c'est net, c'est comme ça. Et surtout, la constance. En fait, il traverse les époques. Parce qu'il sort de la guerre quand il fait son appel. C'est la sortie de guerre dont on parlait tout à l'heure. Mais après, il est revenu très en fort, avec Coluche. Dans les années 80, au moment où il y avait les nouveaux pauvres, où le chômage de masse s'est installé. À ce moment-là, il a dit c'est de la folie. Et même la première campagne de dons de Coluche, il a eu plus d'argent que ce qu'il a pu dépenser avec les restos. Il est allé filer un chèque à l'abbé Pierre. Donc, quand tu retraces toute cette histoire-là, condensée dans un film, moi, ça m'a donné de la pêche. Parce que des fois, c'est fatigant, ce combat. Parce que tu te dis, contre quoi on se bat, là ? C'est des moulins à vent, c'est dur. Ça avance pas comme on voudrait. Et puis, on voit les souffrances, on voit aussi les solutions, mais... et de voir ce combat-là, et aussi autour de la consommation, parce qu'il parle aussi de ces sujets-là. On n'est pas que dans la lutte contre l'exclusion et le mal-logement et les inégalités, on est aussi sur la consommation, aussi sur la paix dans le monde. Il y a un discours sur la paix dans le monde. Donc, ça donne de la pêche, quoi.
Je rappelle donc le festival qui aura lieu les 15 et 16 décembre prochains, le festival Les Nuits de la Rue. Comment est-ce qu'on se procure des places ?
Eh bien, vous allez sur toutes les plateformes qui donnent des places pour n'importe quel concert. Et on vous y attend nombreux.
Et je rappelle que les abonnés à Backseat bénéficient de moins 20% sur le pass une journée. Un lien avec la réduction a été envoyé à tous les abonnés via KissKissBankBank. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est dans le cadre de ce partenariat entre Backseat et la Fondation Abbé Pierre.